Bonsoir, comment allez-vous ? Je suis toujours étonnée de la façon dont on interroge les personnalités en tout genre. Mannequin, président de la République, footballeur, violoniste, cuisinier, surtout. Êtes-vous pour ou contre le burkini, le maïs OGM, la maternelle à 2 ans, la retraite à 60, l'énergie nucléaire, l'homoparentalité, l'augmentation du gaz, la diminution des passages cloutés ? Ils ont 2 millièmes de seconde pour réfléchir, doivent répondre par oui ou par non et de façon définitive. Ces émissions sont donc des fabriques de paroles insensées prononcées par des gens sensés. Par exemple, la police dans la rue, pour ou contre ? Devant la maison de la radio, il y a une ligne blanche que tout le monde franchit allègrement pour accéder au parking, histoire de gagner une demi-heure. En priant à chaque fois, bien sûr, pour que la marée chaussée ne soit pas là. Et pourtant, quand exactement au même endroit, l'an passé, en quittant à pied la radio sur le coup de 2h du matin, 3 gars, aussi baraqués qu'éméchés, m'ont demandé mon sac en oubliant les formules de politesse. J'ai prié pour que la marée chaussée soit là.
Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 9 ans et je voudrais savoir quelle est la différence entre un policier et un gendarme. Merci, au revoir.
Ah, bonsoir Constance. Question que nous proposons à un policier, une commissaire, Camille Chaise. Bonsoir Camille, la différence entre le policier et le gendarme, vous demande Constance.
Alors Constance, avant de parler des différences, je vais surtout parler des points communs parce qu'il y en a quand même beaucoup. D'abord, les policiers et les gendarmes ont le même objectif, à savoir assurer la sécurité des habitants partout en France. Alors pour cela, ils ont des missions de police judiciaire, ils réalisent les enquêtes, de renseignements un petit peu partout sur le territoire, d'assistance aux personnes, c'est notamment quand tu composes le 17, le numéro d'appel d'urgence pour appeler la police ou la gendarmerie.
C'est le même numéro ?
Alors c'est le même numéro partout en France pour la police et la gendarmerie, effectivement.
Au secours, quoi.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la police secours qui vient en urgence aider la personne qui a composé le 17. C'est aussi les mêmes règles qui s'appliquent aux policiers et aux gendarmes, par exemple. On a le même code de déontologie qui dit comment doit se comporter le policier ou le gendarme, que ce soit dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée toute la nuit. On est aussi employé par le même ministère, le ministère de l'Intérieur, qui se trouve donc place Beauvau. Alors effectivement, il y a quand même des différences. D'abord, on ne travaille pas sur la même zone géographique. La gendarmerie, ils sont plutôt dans les zones rurales ou périurbaines. Et la police, c'est davantage dans la ville et dans les banlieues difficiles.
D'ailleurs, quand vous avez dit place Beauvau, précisons place Beauvau à Paris. Donc, plutôt gendarmes à la campagne, on va dire, et police à la ville.
Par ailleurs, on ne travaille pas sur les mêmes enquêtes. Par exemple, la police travaille à 80% traite de la grande criminalité organisée et à 100% des affaires de terrorisme, alors que la gendarmerie travaille par exemple beaucoup sur les questions de cambriolage. C'est aussi lié à la zone de compétence des uns et des autres. Alors, on ne s'habille pas tout à fait avec le même uniforme. Il y en a qui sont en bleu clair, d'autres en bleu marine. Et on n'a pas non plus la même histoire. La police a été créée pendant le Moyen-Âge, alors que la gendarmerie date plutôt de la Révolution française. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'a pas le même statut. Les gendarmes sont des militaires, alors que la police, ce sont des métiers civils, même s'il y a quand même une forte hiérarchie avec des grades, des corps, et que la discipline est aussi très présente.
Et un uniforme.
Et un uniforme, bien sûr, pour les deux, même si les policiers et les gendarmes peuvent aussi travailler en civil.
Ah oui, ah, les gendarmes aussi peuvent travailler en civil.
Tout à fait.
Et finalement, à votre avis, qu'est-ce qui préside au choix de la gendarmerie plutôt que de la police ou inversement ?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà la zone géographique. Ceux qui sont plus habitués à la ville, spontanément, choisissent plutôt la police parce qu'ils sont habitués à transiter dans la ville et dans ses banlieues. Mais je pense que ce qui joue beaucoup aussi, c'est les fictions, les films ou les séries à la télé où, par exemple, on peut adorer un héros qui est policier ou qui est gendarme et qui donne envie de rentrer dans le métier.
L'image donc.
C'est l'image, effectivement.
Camille Chaise fait partie de la police. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons si c'est vrai cette histoire de pomme de Newton. Si on peut s'injecter de l'ADN pour être plus fort. Et pourquoi il y a des bulles dans la bière. Patrick MacLeod au Petit Bateau, vous le connaissez bien. Il est président de l'Institut du Goût. Il est également ancien directeur du laboratoire de neurobiologie sensorielle de l'École pratique des hautes études.
Bonjour, je m'appelle Mayol, j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les bébés mettent tout dans la bouche. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi les bébés sucent toujours quelque chose.
Pourquoi les bébés mettent tout dans leur bouche, demande Mayol et Anne, professeur Patrick MacLeod.
Eh bien, la bouche est l'endroit de notre corps, chez nous les adultes, qui a la densité d'innervation, c'est-à-dire des petites fibres nerveuses qui se terminent dans la peau et les muqueuses, la plus dense.
Plus qu'au bout des doigts.
Plus qu'au bout des doigts. On a mesuré très soigneusement au laboratoire la sensibilité, et on peut dire que celle de la bouche est 4 fois plus fine. C'est-à-dire que si j'ai une toute petite chose qui mesure, mettons, 0,5 millimètre, je sentirai très bien avec mes doigts. Eh bien, si cette petite chose, je la casse en petits morceaux, mes doigts, ils sentiront plus qu'une poudre, et ma bouche, elle sentira encore des petits grains. Donc, cette innervation très dense, elle est vraie au moment où ça se développe. Donc, le petit bébé, il n'a pas encore l'usage de ses mains, il n'a pas encore l'usage de ses pieds, il n'est pas très habile à distinguer les différentes parties de son corps, mais il a déjà une bouche qui marche très bien. Et donc, dans le développement psychologique de la personne, on passe tous, jusque vers l'âge de 2 ans, par ce qu'on appelle le stade oral. Ça veut dire la bouche. Et ça veut dire que tout ce qu'on peut comprendre, tout ce dont on peut prendre clairement conscience comme un objet qui est du monde extérieur et qui nous intéresse, ben c'est avec la bouche.
Plus qu'avec les yeux.
Plus qu'avec les yeux, plus qu'avec les mains. Alors, si vous voulez, on peut aussi faire un rapprochement, c'est que, alors que le fœtus était encore dans le ventre de sa mère, c'est le système tactile qui s'est développé en premier, vers le 4e ou 5e mois de la vie du fœtus. C'est en quelque sorte l'ancêtre de tous nos sens. Donc, quand il se manifeste au début de la vie, eh bien, c'est lui qui a priorité parce qu'il est le plus ancien.
Il y a quelque temps, j'étais dans un magasin de chaussures. Il y avait un jeune ménage qui essayait des chaussures, lui et elle. Ils avaient un bébé d'1 an qu'ils avaient assis par terre, qui était tout tranquille et bien. Les parents étaient en chaussettes et ils essayaient donc les nouvelles chaussures. Et le petit a pris la chaussure de son père, l'ancienne, et soigneusement il léchait la semelle.
Comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Yeah, yeah. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
Si moi aimais-toi, blessez-moi.
C'était Vianney, moi, aimez-toi, blessez-moi. Vous avez remarqué que quand on a des choses très intimes à dire, on trouve toujours une façon un peu déformée de les dire, comme si on n'osait pas. Il n'a pas dit « je t'aime, j'ai de la peine ». Par exemple, on ne dit pas « mort », on dit « décédé », on dit même « décédé ».
Les petits bateaux sur France Inter.
Si le grand Ulysse a fait un beau voyage, le petit Ulysse pose une belle question et Marc Péchanski a fait de belles études de biologie et il continue à étudier les cellules souches et les maladies neurodégénératives à l'INSERM. Alors attention, la réponse est difficile, mais nous comptons sur les grands pour aider les petits et sur le site des petits bateaux pour aider les grands.
Je m'appelle Ulysse, j'ai 9 ans et demi et je voudrais savoir ce qu'est l'ADN et si on peut s'en injecter pour devenir plus fort. Merci.
Ulysse, l'ADN, ça s'appelle, déroulé comme ça, c'est l'acide désoxyribonucléique.
C'est bon, on scrabe ça.
Hein, c'est, voilà, comme ça, on est plus intelligent tout de suite. L'ADN, c'est le support du programme qui dirige notre corps parce que il est placé dans chacune des dizaines ou centaines de milliards de cellules qui composent notre corps. Et il permet à ces cellules de produire des protéines. Et ces protéines, ce sont les molécules du vivant. Donc, c'est celles qui permettent à une cellule de peau d'être une cellule de peau, une cellule nerveuse d'être une cellule nerveuse, à un muscle de fonctionner correctement. Donc, cet ADN, dans chaque cellule, on en a deux molécules, une qui vient du père, une qui vient de la mère. Et globalement, cet ADN fait 6 milliards d'éléments. On les a comptés, on les a même identifiés, déchiffrés. On en a fait un annuaire. Ça a été ce qu'on appelle le déchiffrage du génome humain. Ça a été une aventure absolument extraordinaire qui a commencé avec le Téléthon. On ne s'en félicite pas suffisamment, je crois, dans notre pays.
Allons-y. Hein, et c'était en quelle année?
Alors, ça a commencé avec la création par l'Association française contre les myopathies d'un laboratoire qui s'appelle le Généthon, qui existe toujours, qui a été créé en 1990. Et puis, dans ce laboratoire, ils ont introduit, alors il y avait des grands scientifiques, hein, Daniel Cohen, Jean Weissenbach, qui dirigeaient tout ça. Ils ont introduit des robots. Et avec ces robots, ils ont commencé à analyser la molécule d'ADN et à mettre les premiers repères dans cette molécule énorme dont les généticiens pensaient à l'époque dans le monde que c'était tellement énorme que on arriverait sans doute à la déchiffrer, mais en 2020 ou 2030, en tout cas pas tout de suite, quoi. Et puis, en 2 ans, ils ont amené les premiers repères sur l'ensemble de la molécule d'ADN. Et en s'appuyant sur ces repères, les scientifiques dans le monde entier ont construit un consortium. Et ce consortium a déchiffré le génome, les premières vraies cartes du génome, les premiers vrais déchiffrages sont apparus en 2000-2001. Et on date la fin du déchiffrage, soit à 2003, soit à 2006. Mais en tout cas, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait.
Et donc, cela, grâce au Téléthon.
Grâce au Téléthon, bravo. Absolument. C'est l'argent du Téléthon qui a permis vraiment ce tremplin pour cette recherche.
Alors maintenant, Ulysse voudrait s'en injecter.
Est-ce qu'on peut s'en injecter? C'est pas tout à fait un produit que on peut mettre dans la circulation sanguine ou dans la tête. L'ADN, ça ne fonctionne que lorsque c'est à l'intérieur d'une cellule, et même à l'intérieur du noyau de la cellule. Et pour rentrer dans la cellule, l'ADN est pas armé. Ça marche pas très bien parce que ça se colle et puis c'est assez toxique d'ailleurs quand c'est à l'extérieur des cellules. Donc on n'arrive pas à l'injecter comme ça. Mais on peut effectivement l'introduire. On peut l'introduire et du coup, non pas forcément devenir plus fort, mais réparer des choses qui manquent à l'intérieur du programme d'une cellule. C'est ce que aujourd'hui on appelle la thérapie génique. La thérapie génique, c'est le traitement par gène. Et on prend des morceaux d'ADN et puis on va les introduire. Et pour l'introduire, on a utilisé la nature. Parce que dans la nature, il y a des êtres qui fonctionnent exactement comme ça. Ils ont un ADN à eux, et puis ils ont aucun moyen de se répliquer, aucun moyen de se multiplier. Pour se multiplier, il faut que c'est un peu comme des coucous, hein, ils vont se mettre dans le nid de quelqu'un d'autre, ils vont introduire leur ADN dans une cellule, ça peut être une bactérie ou une cellule vivante, et on le sait très bien, parce que c'est ce qui nous arrive quand on a un rhume ou une grippe, c'est des virus. Les virus, ce sont des êtres qui n'ont aucun moyen de se multiplier, sauf à envahir une cellule qui va leur permettre de multiplier leur ADN. Et pour ça, bah, ils ont évidemment développé tout un tas de stratégies au cours du temps. Hein. Et ils ont comme ça des outils qui permettent de traverser les membranes, de mettre leur ADN dans le noyau. Et c'est ça qu'on utilise pour la thérapie génique.
C'était le biologiste Marc Péchanski, qui est chercheur à l'INSERM et qui dirige l'ISTERM.
Bonjour, je m'appelle Baya. J'ai 7 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi dans la bière il y a des bulles. Merci, au revoir.
Pourquoi dans la bière il y a des bulles ? Gérard Ligier-Belair, vous êtes professeur de physique à l'Université de Reims et vous dirigez une équipe de chercheurs qui travaille sur les bulles.
Les bulles, justement, oui. Bonjour Zaya. Alors effectivement, il y a des bulles dans la bière. Alors il n'y en a pas que dans la bière, il y en a dans tout ce qu'on appelle les boissons effervescentes. Alors la bière est une boisson effervescente qui fait des bulles, tout simplement parce que la bière contient ce qu'on appelle du dioxyde de carbone dissous. Quand tu as affaire encore à une bouteille qui est fermée, la bière est sous pression. Ce qui fait en sorte que le gaz carbonique ne peut pas s'échapper. Donc quand tu regardes une bouteille de bière qui est fermée, tu ne vas pas pouvoir voir de bulles, tout simplement parce que le gaz carbonique ne peut pas s'échapper, il ne peut pas encore faire des bulles. Par contre, quand tu débouches ta bière et que tu te verses un verre, là, tu vas faire en sorte que la pression va chuter. Si la pression chute, le gaz carbonique dissout est obligé de ressortir et il va le faire sous forme de bulles.
Donc c'est son truc à lui, au gaz carbonique, c'est de s'échapper.
Exactement. Quand le liquide n'est plus sous pression, le gaz carbonique ne peut faire qu'une seule chose, c'est sortir du liquide et il va sortir sous forme de bulle.
Et pourquoi il est pas bien dans le liquide? C'est quoi l'histoire? Pourquoi il part?
Alors, il est très bien dans le liquide, mais il faut que le liquide soit sous pression. Alors, c'est le cas de la bouteille. On est sous une légère pression, entre 2 et 3 fois supérieure à la pression atmosphérique. Sous cette pression, 2 à 3 fois supérieure à la pression atmosphérique, il n'y a aucun problème. Le gaz est très content d'être entouré de liquide. Par contre, quand on débouche la bouteille et qu'on revient à la pression atmosphérique normale, qui est de 1 bar, là, le gaz carbonique n'est plus du tout à son aise dans le liquide et il est obligé de s'en aller. C'est la physique qui veut ça.
En fait, il s'adapte au 1 bar.
Exactement. Il est obligé de s'adapter au 1 bar. Donc, il y a une certaine quantité qui doit sortir.
Cette semaine, vous avez peut-être entendu comme moi que l'UNESCO a fait entrer la bière belge au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. J'imagine la bière artisanale. C'est tellement bon. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. Mama's gone around the bend. She hears voices in her head. Now with all the drugs she takes, she can't recognize my face. C'était Cocoon sur France Inter où vous avez la bonne idée d'écouter Les Petits Bateaux. Vous savez, l'émission où des enfants posent des questions et des savants répondent.
Bonjour, je m'appelle Max, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas cette histoire de Newton et de la pomme. Merci, au revoir.
Bonsoir Max. Jean-Pierre Luminet a écrit La Perruque de Newton, édité chez Lattès. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon, chercheur au CNRS. C'est un roman que vous avez écrit.
C'est un roman, mais bon, fondé sur, évidemment, la vie réelle ou supposée connue de Newton, un personnage bien étrange et bien fascinant. Et effectivement, tout le monde a plus ou moins entendu parler de cette histoire de paume, avec laquelle il aurait peut-être découvert ce qu'on appelle la gravitation universelle. Bon, alors comment ça s'est passé ? Newton était un enfant extrêmement spécial, assez renfermé sur lui-même, qui ne communiquait pas beaucoup, mais qui avait un esprit extraordinairement perspicace. Et puis, il commençait à peine à faire des études supérieures à l'université de Cambridge, c'était dans les années 1660, hein, ça date pas d'aujourd'hui, que la peste se déclare, et donc l'université ferme. Donc il retourne chez lui, et chez lui c'est la campagne, parce qu'il était en fait enfant de fermier. Voilà. Et à la campagne, il a 2 ans, en attendant que la peste soit éliminée, que l'université rouvre. Il a 2 ans et il se met à réfléchir un petit peu à plein de choses. Voilà. Et notamment, c'est lui qui l'a raconté beaucoup plus tard. Donc on ne sait pas s'il y a un côté, peut-être un côté reconstitution légendaire d'un vieil homme qui raconte ses souvenirs de jeunesse à quelqu'un qui va écrire sa biographie. Il dit que c'était un soir de pleine lune. Il voyait la lune dans le ciel. Et puis il était dans son verger, il y avait des pommes, évidemment, des pommiers. Et il voit tomber une pomme sur le sol. Et donc il explique lui-même qu'il s'est posé la question. La pomme tombe sur le sol parce qu'elle est attirée par la pesanteur, la gravité de la Terre. La lune, c'est peut-être comme la pomme. Elle tombe sur la Terre. Sauf qu'évidemment, elle ne tombe pas directement parce qu'elle a un mouvement de côté qui l'empêche d'atteindre le sol à chaque fois. Donc la Lune rate la Terre en permanence, mais elle tombe sur la Terre exactement comme la pomme. Et c'est une idée absolument géniale, parce que ça veut dire qu'il y a une loi universelle, la loi de la chute des corps, qui va expliquer de la même façon la chute d'une pomme sur la Terre, la chute de la Lune sur la Terre, mais du coup aussi la chute de la Terre vers le Soleil, qui ne tombe jamais quand même sur le Soleil parce qu'elle tourne autour, la chute du Soleil sur les autres étoiles, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça s'appelle attraction universelle.
Génial aussi, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon, chercheur au CNRS. Il a écrit « Astéroïdes, la Terre en danger », édité au Cherche Midi.
Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir si l'eau flotte. Au revoir.
Alors mon cher Victor, en attendant de trouver le physicien qui répondra à ta question, parce que tu sais ça peut être long, j'aimerais te lire ces quelques mots du poète persan du XIIIe siècle, Rumi. Les voici. Sais-tu pourquoi l'océan bouillonne de vague en vague ? C'est qu'il se sent à l'étroit et aspire aux vastes espaces. Ainsi l'eau s'élance vers le ciel, car elle avait aux cieux déjà l'âme voyageuse. Vous venez d'écouter la rediffusion des Petits Bateaux du 4 décembre 2016. Notre site est à votre disposition, été-hiver, jour et nuit, par franceinter.fr. Je rappelle le principe de l'émission, des enfants posent des questions sur un répondeur qui réouvrira le 1er septembre et des savants leur répondent avec pour consigne de ne pas dépasser 4 minutes. Vous trouverez l'énoncé des questions et les noms des savants ainsi que leurs fonctions et ouvrages sur le site des Petits Bateaux. Marjorie Devoucou, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.